Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 19 septembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien se rendra à New York pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En Irak, 10 terroristes daéchistes ont été tués par les Hashd al-Shaabi dans le nord du pays. Et au Niger, manifestation contre la présence militaire française à Niamey et à Dosso. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi se rendra à New York ce lundi 19 septembre pour prononcer un discours lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la position de la République islamique d'Iran sur l'ordre international équitable grâce au multilatéralisme économique. À la tête d'une délégation de haut rang, M. Raisi quittera Téhéran lundi pour assister à la réunion annuelle et s'entretenir avec les chefs d'État présents aux événements, ainsi qu'avec des personnalités internationales. Le président iranien a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer ou de discuter avec son homologue américain Joe Biden lors de son séjour à New York. S'adressant jeudi 15 septembre à la chaîne de télévision Qatari Al Jazeera, M. Raisi a déclaré que des pourparlers directs avec les États-Unis sur l'accord nucléaire étaient sans résultat. La décision finale de rétablir le plan global d'action conjoint appartenait aux États-Unis, a-t-il déclaré, ajoutant « Les États-Unis doivent prendre des mesures de confiance envers la partie iranienne ». Il a également déclaré au réseau basé à Doha que toute levée potentielle des sanctions américaines devait être accompagnée de garanties pertinentes que Washington ne rétablira pas à nouveau les sanctions. L'Iran accueillera une importante délégation de représentants d'entreprises russes le 19 septembre, après que le président russe Vladimir Poutine l'a annoncé lors d'une réunion avec le président iranien Ebrahim Raisi. Le porte-parole du ministère iranien du Commerce a déclaré dimanche que 100 personnes, représentant 65 entreprises russes, tiendraient 3 jours de pourparlers avec leurs homologues iraniens à Téhéran à partir de lundi 19 septembre. Il a déclaré que plus de 750 réunions en face-à-face étaient prévues entre les entreprises iraniennes et russes au cours de la visite. La délégation comprend des représentants de diverses entreprises, notamment des fabricants de produits alimentaires, de machines agricoles, de produits pharmaceutiques et de principaux fournisseurs d'équipements de communication. Le responsable du ministère iranien du Commerce a déclaré que la Russie prévoyait d'envoyer au moins 10 autres délégations commerciales en Iran jusqu'à la fin de cette année. Il a déclaré que des membres des chambres de commerce provinciales de tout l'Iran participeront également aux réunions prévues avec la délégation russe. L'annonce intervient quelques jours seulement après que Poutine a déclaré à Raisi, lors d'une réunion en Ouzbékistan, que la Russie enverrait sa plus grande délégation commerciale à Téhéran dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour étendre leurs liens économiques et renforcer leur défense contre les sanctions étrangères. Poutine a fait ses remarques jeudi 15 septembre, alors qu'il a assisté à un sommet à Samarcande de l'Organisation de coopération de Shanghai, un bloc dirigé par la Russie et la Chine qui va accorder à l'Iran l'adhésion à part entière dans les 7 prochains mois. La Russie a recherché des liens économiques et énergétiques plus étroits avec l'Iran depuis février, lorsqu'il a été soumis aux sanctions occidentales en raison de son implication dans la guerre en Ukraine. 7 terroristes daéchistes ont été tués dimanche 18 septembre au cours d'un affrontement dans la province de Ninive, dans le nord de l'Irak, a annoncé dans un communiqué le service de presse de la force de mobilisation populaire irakienne Hashd al-Shaabi. Des combattants de Hashd al-Shaabi ont affronté des terroristes Daesh retranchés dans un tunnel dans le désert d'Al-Hadra, au sud-ouest de Mossoul, le chef-lieu de la province de Ninive, selon le communiqué. L'affrontement a entraîné la mort de 7 terroristes Daesh à l'intérieur du tunnel. Un membre des forces pro-gouvernementales Hashd al-Shaabi a également été tué et 8 autres blessés lorsque 2 kamikazes daéchistes ont détonné leur ceinture d'explosifs pendant l'assaut. Yahya Rasoul, porte-parole du commandant en chef des forces irakiennes, a quant à lui déclaré dans un communiqué que des hélicoptères de combat de l'armée irakienne avaient détruit un véhicule et tué 3 terroristes de Daesh qui circulaient à son bord lors d'opérations de recherche et de reconnaissance à Ninive. La situation sécuritaire en Irak s'est améliorée depuis la défaite de Daesh en 2017. Cependant, les derniers éléments du groupe terroriste sont depuis lors fondus dans les centres urbains, les déserts et les zones reculées du pays, d'où ils lancent encore de fréquentes attaques de guérilla contre les forces de sécurité et les civils irakiens. La plus grande base militaire illégale des États-Unis en Syrie a été la cible d'attaques à la roquette dimanche 18 septembre dans la nuit, quelques heures après qu'une autre installation abritant les forces américaines a été visée par des projectiles, ont annoncé des sources locales. Ces mêmes sources affirment avoir constaté du feu et de la fumée s'élevant de la base. Aussitôt, des véhicules de l'urgence ont été expédiés vers la zone. Des hélicoptères américains ont été également vus flânant au-dessus de la base immédiatement après l'attaque, la plus intense à avoir jamais visé l'installation américaine. Les roquettes ont touché des points sensibles à travers la base et plusieurs explosions massives ont retenti dans toute l'installation lors de l'incident. Plus tôt dans la journée du dimanche, des roquettes ont été tirées contre une installation militaire abritant les forces d'occupation américaines dans la province de Osaka, voisine de Deir ez-Zor, a rapporté Sabre News, une chaîne d'information Telegram associée aux forces antiterroristes irakiennes. Les roquettes ont été tirées depuis une zone voisine, a indiqué la chaîne, précisant que la cible était un avant-poste situé dans la ville d'Al-Shadadi, située à la périphérie sud de la capitale provinciale de Osaka. Un grand nombre de Nigériens ont manifesté dimanche 18 septembre dans la capitale Niamey et à Dosso, une ville située au sud-ouest, afin de protester contre la présence militaire française au Niger. À Niamey, les manifestants ont marché sur près de 3 km de la place Toumo, située à la périphérie est de la capitale, à la place de la Concertation devant l'Assemblée nationale. Ils scandaient des slogans et portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non à la présence militaire, la France dégage », etc. Sur des images relayées par les réseaux sociaux, à Dosso aussi, ce sont les mêmes slogans scandés par les manifestants qui se sont rassemblés à l'arène régionale de lutte traditionnelle. Les manifestations de Niamey et d'Osso ont été organisées à l'appel d'un regroupement de la société civile nigérienne dénommé M62. Lancé le 3 août dernier à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, ce mouvement a appelé à une union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple nigérien. Le méga-projet de gazoduc Nigeria-Maroc, devant traverser 16 pays d'Afrique de l'Ouest, commence à prendre forme. Un mémorandum d'entente confirmant la concrétisation de ce projet a été signé le 15 septembre à Rabat. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Sédiko Douka, du commissaire infrastructure Énergie et Digitalisation du Nigeria, Malam Mele Kolo Kari, du président directeur général de la NNPC et de la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, Amina Ben Radra. Ce mémorandum d'entente confirme l'engagement de la CEDEAO et l'ensemble des pays traversés par le gazoduc à contribuer à la faisabilité, aux études techniques, à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe. Le projet, indiqué la même source, implique 16 pays, dont 14 membres de la CEDEAO, précisant qu'il facilitera à d'autres pays d'exporter leur excédent de gaz naturel, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Mauritanie. Annoncé il y a plusieurs mois, ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc devra longer la côte ouest africaine depuis le Nigeria en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie pour prendre fin au Maroc. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le trio qui casse US-OTAN. Le Troïka Iran-Russie-Chine a pour objectif de créer un nouvel ordre mondial pour couper court au monde unipolaire avec à sa tête les États-Unis, a écrit le Daily Mail. Des cercles médiatiques occidentaux viennent d'avancer une hypothèse selon laquelle l'Iran, la Russie et la Chine envisagent de rétablir un nouvel ordre mondial pour briser l'Occident. Mais est-ce vraiment nécessaire d'aller jusque-là? Au train où vont les événements, c'est plutôt l'Amérique qui casse l'Europe. La pauvreté, la ruine, et ce que fait le trio Chine-Iran-Russie, c'est de chercher pour que l'Europe ne plonge pas définitivement. Le pétrole et le gaz, l'Iran en a proposé aux Européens. Le gaz, la Russie en a en abondance, et les liens économiques, la Chine est toujours prête à l'étendre. Alors, qui empêche les Européens de se faire du bien? Les États-Unis, évidemment. Voici reproduit un article de désinformation signé Daily Mail. Dans une de ses nouvelles notes, à l'occasion de la récente rencontre des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, en Ouzbékistan, le Daily Mail a examiné de sa propre façon les dernières rencontres des présidents des trois pays Iran, Russie, Chine en marge du sommet de l'ECS et écrit à cet égard. La guerre en Ukraine a rapproché Téhéran, Moscou et Pékin. Et maintenant, ces trois pays sont prêts à créer une nouvelle alliance anti-occidentale. La publication britannique avertit que la création d'une telle alliance présente une menace beaucoup terrifiante pour la sécurité et la démocratie occidentale, et de prétendre. La Russie, la Chine et l'Iran décident de rétablir un nouvel ordre mondial, briser l'Occident, surtout par le biais des cyberattaques, l'ingérence électorale, la propagande et le stockage nucléaire. Et comme argument, le journal rappelle les propos des présidents de la Chine et de la Russie lors de la réunion de Shanghai et leur accent sur la création d'un monde multipolaire qui semble, aux journalistes du journal, la pire des choses qui soient, l'idéal étant évidemment que l'Europe reste sous la botte US. La guerre en Ukraine a montré la Troisième Guerre mondiale plus proche que jamais, dit Daily Mail. Autrefois, ennemis acharnés de la guerre froide, Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération ces dernières années pour contrebalancer la domination mondiale des États-Unis. À ce duo s'ajoute l'Iran, qui possède le plus grand arsenal de missiles et de drones du Moyen-Orient. Les progrès de l'Iran, ainsi que la tenue des exercices conjoints avec la Chine et la Russie, sont un autre signe d'une coopération étroite entre les trois pays. selon le Daily Mail, la poursuite d'une nouvelle route de la soie entre l'Asie et l'Europe et le fleuron des plans d'expansion chinoise du président Xi Jinping. Pendant ce temps, l'importance de l'Iran pour le nouvel ordre mondial a été soulignée par la décision de Poutine d'entreprendre son premier voyage en Iran au-delà des frontières de l'ancienne Union soviétique depuis la guerre d'Ukraine. Ce média basé à Londres évalue ensuite la signature d'accords stratégiques à long terme entre l'Iran, la Russie et la Chine comme un autre aspect de l'unité de ces trois pays et a écrit « La puissance combinée de l'Iran, de la Russie et de la Chine peut complètement détruire l'hégémonie de l'Occident comme nous l'avons vu au cours des deux dernières années. » Le journal évoque ensuite l'achat par la Russie des drones fabriqués en Iran, prétendant à cet égard l'Iran a fourni à la Russie des centaines de drones et est devenu un partenaire clé et un partisan de l'armement de Moscou. Et si ce partenariat se mettait à étendre et à doubler le marché de vente d'armement occidental? La signature d'accords stratégiques à long terme entre l'Iran, la Russie et la Chine est un autre aspect de l'unité de ces trois pays. La puissance combinée de l'Iran, de la Russie et de la Chine peut complètement détruire l'hégémonie de l'Occident et la destruction a déjà commencé, avertit le journal Daily Mail.
Bonjour à tous et bienvenue sur nos plateaux de télévision à Presse TV ici à Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, connue au niveau international, représentant la moitié de la population mondiale, rien qu'en comptant les pays d'Asie et d'Eurasie. Il y a eu une réunion ce jeudi et vendredi en Ouzbékistan. Et en marge de cette réunion d'organisation, il y a eu différentes rencontres, notamment Xi Jinping et Poutine, mais pas que. Également, Xi Jinping est là ici ce matin, vendredi. Alors, l'OCS, une organisation extrêmement importante à l'heure actuelle, parce que représente, comme je l'ai indiqué, la moitié de la population, mais pas seulement. Il s'est énormément développé, nous montrant un pôle uni contre l'Occident, contre les États-Unis, et permettant pour un pays comme l'Iran et d'autres pays également de passer outre les sanctions. En effet, grâce au fait que l'Iran est devenu membre de l'Organisation mondiale, de cette organisation de coopération, eh bien, l'Iran a déjoué plus ou moins les sanctions que les États-Unis leur avaient imposées, qui les avaient un petit peu mis à part par rapport aux autres pays, empêchant toute coopération, empêchant également des relations économiques avec les autres pays, le point le plus important. Alors, que s'est-il passé ce week-end, enfin ce jeudi, ce vendredi? Que peut-on envisager? Comment peut-on envisager le futur de l'OCS et surtout avec l'Iran? Tout de suite va commencer notre reportage. Je vous tiens après avec nos deux invités pour le débat.
L'Iran a signé jeudi un mémorandum pour adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a rapporté l'agence de presse publique russe TASS. Fondée en 2001, l'OCS est une organisation intergouvernementale de coopération en matière de sécurité comprenant la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et un certain nombre d'États post-soviétiques. L'Iran était auparavant un membre observateur. L'une des tâches importantes de ce sommet consiste à finaliser des documents de l'OCS pour qu'ils soient signés par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, annonçait M. Raisi. Téhéran, observateur de l'Alliance régionale depuis 2005, a obtenu son adhésion lors du dernier sommet de l'OCS en 2021 au Tadjikistan. L'Iran veut utiliser au mieux le pouvoir économique et les capacités de la région ainsi que des pays asiatiques au profit de la nation iranienne, a indiqué M. Raisi. lors du sommet, de nombreuses rencontres entre chefs d'État étaient prévues, mais une attire particulièrement l'attention. Les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se sont entretenus en marge du sommet. Et pour le maître du Kremlin, cette alliance est une alternative réelle aux structures orientées vers l'Occident. C'est une organisation qui est fermée aux États-Unis, à l'Occident ou encore au Japon, et qui souhaite faire la publicité de la bonne entente sino-russe et aussi avec la République d'Asie centrale. Détaille Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'École navale et à l'INACLO. La Chine est disposée à travailler avec la Russie afin de promouvoir un ordre international plus juste et raisonnable, a également affirmé en amont du sommet Yang Jiechi, le responsable de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Xi Jinping apporte son soutien à son ami Vladimir Poutine, ni que les diplomaties chinoises et russes évoquent la nécessité de mettre en place un nouvel ordre mondial.
Nous revoilà sur le plateau du débat. Comme le veut la tradition, le débat de deux personnes, deux invités. Nous avons donc aujourd'hui M. Philippe Hugon, reporter de guerre, et M. Luc Michel, géopoliticien. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à M. Hugon.
Bonjour à Jean-Luc.
Bonjour, bienvenue à nouveau avec nous de manière virtuelle sur le plateau de Presse TV à partir de Téhéran. Aujourd'hui donc, vous l'avez deviné, nous allons parler de l'OCS et également le besoin, par le biais de cette organisation, du besoin de l'Iran à l'heure actuelle. Pour commencer, je propose donc de commencer, si ça ne vous dérange pas, avec M. Luc Michel. Quelques mots sur donc, ce sommet qui a lieu donc, ce jeudi et vendredi.
C'est important parce que l'OCS est en train de se structurer en front anti-occidental et anti-américain. Et avec l'adhésion de l'Iran et le partenariat militaire Moscou-Téhéran, l'OCS est en train de se transformer en anti-OTAN, en alliance militaire, alors qu'il s'agissait surtout d'une alliance économique et géopolitique jusque maintenant. C'est la vraie communauté internationale avec Pékin, Moscou, Téhéran, mais aussi le Pakistan et l'Inde, et 14 ex-républiques soviétiques. C'est presque 6 milliards d'hommes et de femmes, quand l'Occident fait moins d'un milliard. C'est cela qu'il faut retenir, la vraie communauté internationale, c'est la communauté du monde multipolaire. Et c'est très important aussi, c'est de voir l'Inde et le Pakistan dans l'OCS, puisque jusque maintenant, l'Inde était un partenaire militaire de la France et des États-Unis dans l'océan Pacifique. Et le Pakistan était depuis les années 1970 le principal partenaire militaire des États-Unis. Aujourd'hui, avec leur participation à l'OCS, ils sont en train de se détourner. Il y a encore intéressant de suivre qu'il y a un État membre de l'OTAN qui est là comme observateur à la Réunion, c'est la Turquie. C'est une ligne de fracture de plus au sein du bloc américain occidental. Ceux qui racontent que la Russie dans le dossier ukrainien est isolée, eh bien, le sommet de l'OCS est en train de démontrer qu'il n'en est rien.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, voulez-vous rajouter quelque chose à ce que Monsieur Luc Michel vient de dire ?
Oui, alors moi je dirais qu'en fait aujourd'hui le monde occidental paye un peu ses erreurs du passé, et quand je parle d'erreurs du passé, c'est un demi-siècle, hein. C'est une cinquantaine d'années, donc il y a très longtemps qu'on aurait dû incorporer dans des relations multilatérales avec l'Inde, le Pakistan et bien sûr l'Iran. On a cherché à marginaliser un petit peu ces relations avec tous ces pays, avec la Chine, avec la Russie. Alors bien sûr, le monde occidental aujourd'hui a une excellente excuse avec le conflit ukrainien, hein, que les Russes ont déclenché en Ukraine. Donc ça fait une excuse supplémentaire pour le monde occidental de façon à marginaliser un petit peu les pays un peu, entre guillemets, je dirais, dissidents. Donc moi, je suis ravi de voir que l'OCS est en train de fédérer un certain nombre de grandes nations, et pas seulement des grandes nations, mais également d'ex-républiques soviétiques, et ce qui permettra de rééquilibrer, je dirais, la situation, puisque depuis... Depuis une cinquantaine d'années, on voyait l'Occident qui se permettait d'ingérer d'une façon permanente dans les affaires d'État et des affaires qui ne les concernaient pas, et qui imposait un certain diktat à la fois financier, commercial et politique. Donc personnellement, moi je suis vraiment ravi de ce qui arrive aujourd'hui, en espérant que ce déséquilibre puisse rééquilibrer une situation face au monde occidental qui s'est permis de faire un peu n'importe quoi.
Merci, M. Philippe Hugon. Donc, pour résumer, c'est vrai, les pays se sont plus ou moins sentis isolés dans les pays d'Asie, ayant plus de relations avec les pays européens qu'avec leurs propres voisins, donc forcément provoquant des instabilités aux frontières. Il faut se rappeler, il y a pas 10 ans, la Chine et l'Inde voulaient, aux alentours des frontières du Tibet, étaient au bord de l'affrontement. À l'heure actuelle, 10 ans après, on est très très loin de ce genre de conflit au sein de l'Asie. Pourtant, il reste encore deux gros problèmes pour ces pays de l'OCS. Il y a Taïwan et il y a l'Ukraine. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que ce n'est pas la situation ukrainienne-taïwanaise qui ont poussé finalement en 2021 à accepter l'adhésion de l'Iran à l'OCS, Monsieur Luc Philippe?
C'est la volonté tout à fait de Vladimir Poutine d'en finir avec le nouvel ordre mondial américain. En 1991, à la chute de l'Union soviétique, Bush père a proclamé le nouvel ordre mondial et Fukuyama a proclamé la fin de l'histoire. C'était la démocratie libérale et l'économie américaine qui l'emportaient, et la superpuissance américaine a dominé le monde pendant 30 ans. Maintenant, c'est terminé. Ça a des conséquences géopolitiques fondamentales. Vous savez qu'en géopolitique, il y a un affrontement fondamental entre d'une part les puissances maritimes représentées par la Grande-Bretagne au XIXe siècle et à partir de 1917 à 1943 remplacées par les États-Unis, et il y a une opposition contre la puissance continentale, ce que les géopoliticiens appellent le Heartland, le cœur du monde. Aujourd'hui, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. Il est en train de s'unifier. C'est une défaite fondamentale pour les puissances maritimes. Les États-Unis, c'est une puissance sans histoire et sans civilisation. Le grand philosophe allemand Oswald Spengler disait que les Américains étaient passés de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. Face à eux, il y a maintenant une alliance de vieux empires, de vieux États-civilisations. La Russie, qui est la troisième Rome, qui est 27 siècles d'histoire derrière elle. La Chine, qui est l'empire du milieu, qui a plus de 20 siècles d'histoire. Et enfin, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse, qui était déjà un empire avant Athènes, il y a 25 siècles. C'est cela, c'est la revanche des peuples avec une histoire et une civilisation contre l'anticivilisation et la barbarie.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, vous-même reporter de guerre, ayant l'expérience de ce qui se passe sur le terrain, à l'heure actuelle, on est face à deux grands conflits de marge. Certains disent que si l'Occident et cette alliance occidentale qui existe avant les premières et secondes guerres mondiales échouent, eh bien, c'est tout le monde entier, le multipolarisme qui va changer, mais donnant plus de force à cette Asie, et notamment avec le biais de cette organisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il est clair que l'équilibre mondial est en train de changer et que le clan, je dirais le clan occidental, a déjà perdu sur un certain nombre de domaines. On voit bien la décadence de nos sociétés occidentales. Hein, et il est vrai qu'aujourd'hui, la puissance financière chinoise fait qu'avec l'OCS, va pouvoir fédérer un certain nombre de pays. Et je vous dis bien, on est les responsables de cette situation. Pourquoi nous n'avons pas incorporé l'Iran depuis 30 ans dans les accords internationaux et plutôt que de marginaliser et prendre des points, je dirais pas des points de détail, mais des points politiques, même s'ils étaient importants, de composer. On a bien vu le monde occidental composé avec un certain nombre de pays pour arriver à passer certains accords. Moi, je pense qu'on mélange un petit peu tout aujourd'hui, dans le sens où il faut que la diplomatie reprenne le dessus, que l'argent s'efface. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on le voit aujourd'hui dans tous les conflits depuis 30 ou 40 ans. L'argent joue un rôle déterminant, donc on n'a plus vraiment cet équilibre culturel, cet équilibre social, cet équilibre, je dirais, cet équilibre de bon sens qui permettait de désamorcer certains conflits, de désamorcer certaines situations conflictuelles. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que le monde occidental paye son manque de lucidité à long terme sur la politique internationale. Et aujourd'hui, on voit très bien avec l'OCS qui fédère toutes ces nations qui ont été mis un petit peu de côté par le monde occidental. Et aujourd'hui, eh bien, tout ceci montre bien que l'OCS est en train de rétablir l'équilibre, non seulement de rétablir l'équilibre, mais de prendre le dessus sur le monde occidental.
Merci à M. Philippe Hugon. Alors, comme vous l'avez déterminé, l'Iran est quand même arrivé assez en retard dans cette organisation. Pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avec toutes les sanctions que, depuis la Révolution, l'Iran doit subir, bien entendu, eh bien, les pays ont eu peur d'interagir avec l'Iran, ont eu peur de d'intégrer l'Iran dans les organismes ou juste d'en faire une relation économique. C'était extrêmement compliqué, mais finalement, vous avez dit une phrase très intéressante qui dit « ils ont fait des erreurs ». Est-ce qu'on peut dire, monsieur Luc Michel, que la première erreur a été de pousser les pays à ne plus faire attention aux sanctions, c'est-à-dire de ne plus valoriser les sanctions? Le premier problème a été ça, finalement. L'Iran est maintenant dans l'OCS, pas parce que les Russes et les Chinois et les Iraniens sont devenus des grands amis, mais par besoin, par nécessité réelle.
Écoutez, Xi Jinping a appelé hier la Russie et la Chine à prendre la direction du monde en tant que puissance responsable. Les Américains ont fait au début du dossier ukrainien une erreur fondamentale, un excès d'hubris, c'est-à-dire l'arrogance que donne la puissance. Ils ont cru que cette guerre des sanctions qu'ils imposaient à des petits États allait marcher contre un État continent comme la Russie. Et ils ont échoué. La fin du nouvel ordre mondial a une conséquence économique. C'est la fin de la globalisation américaine, la dédollarisation du monde, la fin des institutions mondiales, banques mondiales, fonds monétaires internationaux, etc. Mais il y a aussi une conséquence évidemment militaire. L'Occident a cherché à neutraliser la Chine sur le dossier de Taïwan, à neutraliser la Russie sur le dossier de l'Ukraine. Il y a actuellement une intense propagande de guerre de l'OTAN qui fait croire que la Chine et la Russie auraient échoué, alors que c'est exactement l'inverse. Ce qu'il faut retenir le plus important depuis ces trois derniers jours, ce ne sont pas les déclarations principalement de Xi Jinping, mais du numéro 3 chinois. Le numéro 3 chinois a abandonné la neutralité de la Chine dans le dossier ukrainien. Il a déclaré que la Chine comprenait la Russie, que l'OTAN était l'agresseur et que depuis les premiers jours, la Chine aidait la Russie. C'est très important, évidemment, parce que les Occidentaux, en particulier Joseph Borrell au sein de l'Union européenne, comptaient sur la Chine comme un intermédiaire vis-à-vis de la Russie pour contribuer donc à ce que l'Occident gagne le dossier ukrainien. Ce ne sera pas le cas. C'est une déroute complète pour l'Union européenne qui est la grande perdante du dossier ukrainien. Mais c'est aussi une défaite américaine malgré toute l'aide apportée à l'Ukraine. Ce matin, il y a eu Poutine qui a menacé les États-Unis. Il a prévenu que si les États-Unis fournissaient des missiles à longue portée à l'Ukraine, la ligne rouge serait franchie et que les États-Unis deviendraient comme belligérant dans le dossier ukrainien, avec toutes les conséquences dommageables. C'est une révolution géopolitique Il faut retenir que ce n'est pas un hasard tout ce qui se passe. Ceci a été planifié par Vladimir Poutine depuis le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie en 2014.
Merci à Monsieur Luc Michel. Pour repasser vers Monsieur Philippe Hugon, comme je l'ai indiqué plus tôt, si les Chinois et les Iraniens et les Russes sont redevenus, coopèrent, c'est pas par pure amitié. Si on regarde même historiquement parlant, on peut pas dire que ça a toujours été au beau fixe entre ces trois pays. Il y a donc bien une bonne raison pour laquelle finalement cette OCS se tourne vers l'Iran. C'est un peu le grenier, puisqu'il faut se rappeler que l'Iran est extrêmement riche dans ses sols, que ce soit au niveau minéral, que ce soit au niveau de l'énergie, gaz ou pétrole. Est-ce que donc il n'y a pas une raison bien géopolitique, comme l'a dit Monsieur Luc Michel, concernant cette adhésion et également cette rencontre entre Xi Jinping ce matin et Monsieur Raisi, première rencontre d'ailleurs entre ces deux chefs d'État?
Oui, alors il faut bien savoir que ce sont des alliances qui se font par nécessité, pas forcément parce que les gens ont des affinités, enfin que ces pays ont des affinités, mais que c'est un peu une obligation économique. Et puis il faut bien savoir que derrière se tient en embuscade le monde occidental et les États-Unis, qui ne sont jamais en retard pour fomenter des mauvais coups. Donc moi je pense que, comme je vous le disais, nous sommes directement responsables, nous, monde occidental, de la situation actuelle. On a toujours imposé beaucoup de choses à plein de choses. Alors moi, sur le conflit ukrainien, j'ai une position un petit peu différente, parce que j'ai une position un peu d'humaniste, dans le sens où quand je vois tous ces gens se faire tuer pour de mauvaises raisons, je suis très perturbé par ça, parce que vraiment tous ces morts innocents, ça me perturbe beaucoup. Mais d'un autre côté, je comprends tout à fait que le bloc de l'Est ne puisse pas tolérer un certain nombre de décisions américaines, hein, puisque les Russes n'avaient rien dit pendant des dizaines d'années, avaient laissé faire un petit peu les choses parce que la Russie était très affaiblie économiquement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne chose de rétablir l'équilibre. Maintenant, moi, vous savez, j'ai toujours cette pensée pour tous ces innocents qui meurent pour rien. Et je suis très perturbé, comme je vous le disais, parce qu'il faut le vivre sur place. C'est très bien d'en parler comme ça à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais quand vous le vivez, quand vous vivez un conflit au plus près, on ne voit plus vraiment les choses de la même façon. Donc, même si je comprends un certain nombre de positions russes sur le dossier ukrainien ou sur un certain nombre de dossiers, moi je pense que nous sommes occidentaux et empire du milieu, hein, de Russie, tout ce que vous voulez. Je pense que malheureusement, on ne pense pas assez aux dommages à toutes ces générations qui vont arriver.
Merci à Monsieur Philippe Hugon. Je repasse donc à Monsieur Luc Michel. C'est quoi le rôle maintenant de l'Iran dans cette OCS? Quel va être le rôle joué par Téhéran face à cette organisation? Son utilité?
Écoutez, dès 2015, moi j'avais annoncé le rapprochement de Téhéran et que Téhéran allait prendre sa place en Eurasie en mars. C'est la troisième grande capitale avec Moscou et Pékin de l'Eurasie. Mais je ne partage pas votre thèse selon laquelle cette alliance serait opportuniste. En effet, il y a des affinités profondes entre Moscou, Téhéran et Pékin. Ces affinités sont géopolitiques. D'abord, ce sont trois puissances eurasiatiques dont l'alliance était commandée par la géographie. Deuxièmement, ce sont trois vieux empires de ces civilisations. Partagent donc la même vision civilisatrice par rapport à la barbarie américaine. Et troisièmement, ce sont des économies dirigées. Ce ne sont pas des démocraties libérales, contrairement à tous les pays du bloc occidental. Donc leur alliance n'est pas du tout opportuniste. Elle est déterminée par la géopolitique et par l'histoire. Maintenant, moi, je ne me considère pas comme un occidental. Je suis partisan de la grande Europe, de Vladivostok à Dublin, qui est opposé aux États-Unis. Je ne fais pas partie de cet Occident. J'ajouterai quelque chose. En Ukraine, c'est la Russie en réalité qui est agressé par l'OTAN. Il est temps que l'Ukraine disparaisse en tant qu'État pour que la grande Europe puisse vivre et qu'on lève l'opposition et la menace que l'OTAN fait peser sur le monde.
Donc, merci. Merci Luc Michel. Merci Monsieur Luc Michel. Je suis vraiment désolée de mettre fin à la discussion. Malheureusement, le débat se finit maintenant. Vous l'avez bien compris, l'OCS s'est passé cette semaine, jeudi et vendredi. Les grands dirigeants de cette organisation se sont rencontrés, notamment le président chinois et Vladimir Poutine, mais pas seulement. Le président chinois et Monsieur Raisi, président de l'Iran. Donc beaucoup de choses sont à dire concernant ce sommet. Nous, on s'arrête là pour ce débat. Je vous dis donc à la prochaine fois à Presse TV français, ici à partir des locaux de Téhéran.
Une vie, une œuvre. Une œuvre.
Shafi'i Kadkani, le chant d'être. Je préfère être un arbre, sous les coups de fouet, d'ouragan et d'éclairs, palpitant d'éclore et de dire, plutôt que d'être une calme roche, confiée aux tendres caresses de la pluie. Ou d'être oreille, corps et âme, emportée par le silence. Ces nuits-ci, dans lesquelles la fleur a peur de la feuille, la feuille a peur du vent, et le vent du nuage. Shafi'i Kadkani est né en 1940 à Kadkan, un village aux environs de Nishapur, berceau des remarquables poètes tels que Khayyam ou Attar. La ville et surtout les chemins bordant les jardins font à ce titre l'objet d'un grand nombre de textes du poète, nostalgique du passé lumineux de la Perse qui n'avait pas encore connu l'atrocité des Tatars. Des chemins bordant les jardins de Nishapur constituent un recueil considérable dans ce domaine. De ce point de vue, Kadkani se révèle un poète rebelle qui se veut gardien d'une civilisation ancienne, celle de la Perse antique. Pourtant, ce qui caractérise l'œuvre du poète, c'est son grand enthousiasme à toujours partir et à toujours être en devenir. Dans cette même optique, il intitula D'être et de chanter, l'un de ses recueils. Cet aspect des écrits de Kadkani s'exprime notamment au travers des figures métaphoriques de la brise, du vent et de la pluie. Cette dernière est appelée à tomber incessamment en vue de laver le visage toujours sale de la terre. Il faut également noter que le poète a donné naissance à des œuvres importantes dans le domaine de la théorie poétique et littéraire. Entre autres, la musique de la poésie constitue un ouvrage de référence pour les universitaires. Kadkani est actuellement professeur émérite de littérature persane et arabe à l'université de Téhéran. Ses cours accueillent chaque jour des dizaines d'intéressés, lesquels ne cessent de parler de la vaste culture littéraire ainsi que de la générosité du maître à transmettre son savoir aux générations suivantes, lesquelles sont supposées assumer la surveillance de ce riche patrimoine qu'est la poésie persane. Bon voyage. « Où pars-tu si hâtivement ?» demanda l'astragale à la brise. « Je m'ennuie beaucoup là. N'as-tu pas envie de fuir la poussière de ces déserts ? Je brûle de partir. Pourtant, que puis-je faire ? J'ai les pieds et les mains liés. Où pars-tu si hâtivement? Là où je pourrais trouver un abri autre que cet endroit. Bon voyage, mais je te ferai jurer par notre amitié et par Dieu. Quand tu traverseras saine et sauve ce désert de terreur, transmets mon bonjour à la pluie et au fleuve. Bijan Djaledi, la poésie du sol. Il y a des gens qui ne comprennent rien à ce monde. C'est pourquoi leurs gestes sont confus et pleins d'effroi. Je connais des gens dont les yeux brillent d'une immense espérance, débordant les confins du monde, pour atteindre le jour et la nuit infinie. Il y a pourtant un étrange chagrin dans leurs yeux, car ils ne comprendront rien à ce monde, jusqu'à son dernier jour. Bijan Djalali, 1927-1999, est le poète des noces de l'homme et du monde. Un poète qui fait abstraction du temps historique pour établir un dialogue avec l'éternité. Il se dégage de ses textes un sentiment de fraternité cosmique, qui rend compte de son amour pour la vie et le monde. Une extase panthéiste de la communion avec la nature traverse l'œuvre du poète. Il y a une beauté aveuglante dans le monde, dit-il joliment. De la même manière, entre l'histoire et le soleil, il choisit le second. Son œuvre semble être ainsi exemple des problèmes de l'homme moderne et de son angoisse existentielle. Son langage se tient à l'écart des complexités, tant au niveau de la forme qu'au niveau du sens. Il est simple et clair. Pourtant, la douleur n'est pas absente de l'univers onirique de Djalali. Le chagrin et la mort sont en effet dans son œuvre des thématiques saillantes. Mais le poète, loin de s'enfermer dans le désespoir ou le nihilisme, parvient à les transcender par l'entremise de sa foi mystique. Tu viendras le jour quand il ne restera de moi qu'une ombre. Tu parleras des arbres, de toi-même et des étoiles. Tu prendras ma main et côte à côte, nous irons. Je parlerai de toi, des arbres et des étoiles. Puis, tu reprendras ton chemin et moi, je t'attendrai encore. Jusqu'à la fin du monde. Le jour où tu seras une vieillarde, je t'aimerai toujours. Car mon amour, qui commença au printemps de ton cœur, ne connaîtra jamais l'automne. Et je t'aimerai toujours. Ton sourire, comme un bateau d'or qui traverse une mer bleue, passant devant mes yeux grands ouverts. Et d'un coup, j'aperçus ta beauté et ma solitude. Par la fenêtre, le monde coule dans ma chambre pour rejoindre à travers mes yeux un autre monde. Comme un russe je suis, qui coule entre deux champs. Comme il est doux de mourir au milieu des feuilles d'automne, de mourir seul, de s'éteindre dans le vertige automnal, de dormir. Comme il est doux de se glisser au fond des racines des plantes, et puis, de s'élever à travers des sentiers étroits, de leur cloche vers le soleil, comme il est doux, d'éclore avec les fleurs, de danser dans la brise, comme il est doux, de mourir à l'automne, de naître au printemps.